dans le livre de Galates 5. Galates 5. Et il y a quelques semaines, quand je savais que je venais, le Seigneur m'a donné ce passage, Galates 5. Et mentalement, dans mon esprit, j'ai commencé à penser, puis bon, finalement, le thème, puis ce que le Seigneur voulait. Fait que je travaillais ça en dedans, je ne me suis pas mis à écrire. Et entre-temps, le pasteur de Glad Tidings à Moncton, il m'a appelé pour prêcher, pas ce dimanche ici, enfin, dans une semaine à peu près, une semaine et demie. Fait que j'ai continué avec ce message. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que j'ai prêché ce message-là, j'ai pratiqué sur eux autres. Et là, c'est le produit fini. Enfin. Amen. Galates 5. Nous lisons une partie, puis avec le temps, on va descendre et on va toucher des choses tellement importantes, tellement des choses qui viennent du cœur de Dieu. C'est écrit pour eux, mais c'est écrit pour nous aussi. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, même dans le message qui a été donné ce matin, restez collés, attachés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, exhortés fortement par l'Esprit Saint. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Dites-vous amen. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Wow, c'est clair. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Dans ce chapitre, c'était l'Église naissante, l'Église bébé, commencée. Et tout de suite, Paul avait un gros problème parce que les judaïsants, les juifs qui croyaient en Christ, ont voulu amener des doctrines, les croyances de leur ancienne religion, le judaïsme. Et on sait que la circoncision était quelque chose de tellement important. Ça identifiait même, évidemment, physiquement l'enfant de Dieu. Et ils ont essayé de ramener ça, oui, la foi en Jésus, certainement, mais on va amener ça aussi. Fait que l'Église était faible, ils connaissaient le Seigneur, ils avaient les apôtres, et c'était un ennemi. C'était un ennemi de l'Évangile pur, la grâce et la foi. Donc, le coupable était le légalisme. Et le légalisme nous poursuit chacun de nous. Ça peut nous poursuivre. On va le regarder encore un peu plus. Le deuxième ennemi, c'est un ennemi qu'on peut s'identifier avec, c'est la chair. Peut-être que ce n'est pas vous, là, mais pour beaucoup de gens, c'est la chair. Enfin. C'est tous notre problème. Et ça peut, enfin, finalement, on a à faire face à ça, évidemment. La troisième chose, c'était la fausse grâce. Plus que ça change, plus que c'est pareil, n'est-ce pas? Fait qu'on a ces trois ennemis, on a ces trois choses-là qui peuvent nous faire du mal. Ça peut nous faire dévier de la simplicité et de la pureté de l'Évangile. Et ce matin, le Seigneur, le message ici que Paul dit à l'Église de Jésus-Christ, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce qu'il veut. Il veut que le Seigneur nous a libérés, mais restez libérés. Ne prenez, n'ajoutez rien, ne mettez pas votre foi en quoi que ce soit d'autre. C'est en lui. Restez là. Bouge pas. Ajoutez pas vos idées. Et vous savez, la loi, dans les Écritures, quand Paul exhortait, parce que constamment il enseignait concernant la loi, s'il y avait quelqu'un qui connaissait la loi, c'était lui. Il a été élevé là-dedans, il était un des premiers là-dedans. Donc, la loi, mais quand il parlait de la loi, ce n'est pas juste les 10 commandements. Ce n'est pas juste les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, où il y a 613 lois. Comment plaire à Dieu? Vous savez, la loi a été donnée pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas suffisants. La loi pointait aux gens que tu es pécheur, et la loi disait que Dieu est trois fois saint. Donc, c'était un instituteur, si vous voulez, un tuteur pour nous amener à Christ. Quand Christ est venu, la loi, je m'excuse là, mais la loi là, fini, dans la poubelle, enfin. C'est un peu fort, là. Il y a des bonnes choses, évidemment. Il y a des bons principes. Mais les chrétiens voulaient quand même garder la loi, garder leur religion, garder leur croyance. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un Dieu avec. Ils se sont agenouillés devant les lois, les règlements. Parce qu'en faisant des lois, des règlements, eh bien, pas mal avancé. Je suis pas mal avancé, puis je fais ceci, puis j'ai fait cela, et puis écoute, je suis pas mal fort dans la foi. Hein? Et finalement, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un orgueil en nous à cause de ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Croyez-vous à cela? C'est vrai pareil. Alléluia. Donc, Paul, quand il parlait de la foi, d'accord, c'était la loi de l'Ancien Testament, mais il y avait un sens plus élaboré. La loi aussi était nos efforts à nous d'accomplir ou de vouloir plaire à Dieu. Et ça aussi, ça se met dans la loi. Ça fait que moi, quand je sais par moi-même, je mets ma foi en moi-même ce que je fais, je adhère tout de suite à la loi, l'esprit de la loi. Mais le Seigneur nous a sauvés. Et notre foi est en lui. Et je veux rester libre de toutes ces exigences de la loi ou que je m'impose sur moi-même. Parce qu'on a des fois cette tendance, on est consciencieux devant le Seigneur et on veut avancer. Et des fois, dans ma chair, je vais établir les lois, les règlements, les façons d'avancer. Scrape ça aussi. Parce que ce n'est pas de nos efforts. C'est vraiment un cœur, Seigneur, ma foi est en toi, je te veux et d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. C'est de cette façon-là qu'on va avancer dans la foi. Ce n'est pas les choses, les j'ajoute, on ajoute ça là, et puis regarde-moi. Non, c'est de cette humilité, cette simplicité. Seigneur, je te dois tout. Seigneur, tout c'est de toi. Et de vivre dans cette gratitude. De vivre dans cet esprit de louange. Il a tout fait. Le chant dit, il a tant fait pour moi que je ne puis plus le dire. Tellement il a fait pour nous. Fait que, enfants de Dieu, nous allons rester. Vous dites, oui, mais... Non, nous allons quand même intentionnellement rester dans cette liberté qu'on a dans la personne de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il a payé un prix... Le grand prix, le prix de Dieu pour qu'on ait cela. Donc, nous voulons rester évidemment dans cette façon de voir et cette pensée. Fait qu'on bénit le Seigneur pour ce passage. Restez, il dit, stand fast. Il dit, ne soyez pas, ne mettez-vous pas de nouveau sous un joug de servitude. Il est facile. Moi, je l'ai déjà fait dans le passé. Le légalisme. Par moi-même, mes efforts. J'ai déjà été pris, puis des fois, il y a des gens qui nous encouragent là-dedans. Et après ça, il y a quelqu'un d'autre qui nous encourage. Et puis, à un moment donné, là, on devient esclave avec des règlements, avec des lois. Et le Seigneur veut qu'on soit vraiment, on ait une relation avec le Seigneur, on aime. Seigneur, puis je marche avec toi parce que je t'aime. Et Seigneur, je t'obéis parce que je t'aime. Je veux te plaire. C'est ça que le Seigneur veut voir. Dans Jean 8 et 36, il dit, « Si le Fils vous a affranchi, vous serez vraiment libre. » Et ça, c'est le titre de mon message. C'est, oui, « Free indeed » en anglais, mais « Vous serez réellement libre. » Vous êtes libre ce matin et nous voulons rester. Fait que nous sommes libérés. Le monde pense que la liberté, c'est qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, de la façon qu'on veut, autant que je veux. Ça, c'est la liberté. Non, non, ça, c'est l'esclavage, 100%. Le Seigneur nous a libérés de cela, de cette façon de vivre. Et notre vie, maintenant, appartient au Seigneur. Le Seigneur nous a libérés de vivre pleinement pour le Seigneur, de ne pas vivre pour nous-mêmes. Gloire à Dieu! Il nous a libérés de nous-mêmes. Avant, on était centrés sur nous autres-mêmes. On vivait pour nous autres, pour ramasser, avoir du fun, du plaisir. Et on était poussés par cela. Mais maintenant, on a donné notre vie. Et on peut prier, Seigneur, que... Imagine, on peut prier du cœur. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Vous savez, quand vous restez dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu reste en vous, ça, vous priez ça naturellement, pas religieusement. Seigneur, que ta sainte volonté soit faite dans ma vie. Nous sommes libérés, nous avons été libérés maintenant de vivre pour une cause, une grande cause, la plus haute cause, l'Évangile, la gloire de Jésus-Christ. Nous avons été libérés de vivre pour les choses qui ont une valeur éternelle, pas les choses passagères. On n'est pas pris par les choses. On n'est pas pris par l'importance que l'homme donne à des choses. On n'est pas mesuré notre valeur par les choses. C'est Jésus-Christ. Et nous avons compris et on a mis toute notre affection en Jésus-Christ. Et nous sommes libérés, plus loin dans ce chapitre, de vivre selon le fruit de l'Esprit, d'avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la discipline de soi. Maintenant, on peut vivre pour le Seigneur et le caractère de Jésus-Christ grandit en nous. Ça se voit en nous. Donc, on réside dans le Seigneur. Sa parole réside en nous et le fruit de l'Esprit, toutes ces choses, tout ce fruit, pousse en nous. C'est quoi? C'est le caractère de Jésus-Christ. On est des Christians, des chrétiens. On est comme Christ. Sa nature en nous. Ça, c'est le but. Ça, c'est la rédemption de Jésus-Christ, de faire de nous des gens comme Jésus-Christ, de refléter la lumière, de vivre. Quel privilège! Quel privilège il nous a choisis et on est comme Christ et on veut être comme Christ. Et il nous aide avec la chair, il nous aide avec toutes les choses possibles. Écoutez, je raconte quelque chose ici. C'était en octobre 31, octobre 1517. Je n'étais pas là dans le temps, mais c'est loin. Il y avait un prêtre catholique allemand au nom de Martin Luther, qui a cloué 95 thèses à l'église Castle Church in Wittenberg, Allemagne. Et c'est là qu'il a commencé, enflammé, ça a commencé la réformation protestante en Europe. C'était, laissez-moi vous dire, c'était quelque chose. Luther, qui a lutté pendant des années avec un sentiment de culpabilité, le péché ne lui quittait pas, ou le sentiment de péché. Et c'était un gars qui enseignait la Bible au niveau universitaire, les Écritures, il enseignait, mais il se confessait constamment. On dirait qu'il a fatigué les prêtres à l'entendre, ses confessions. Il confessait tout le temps, malgré tout ce qu'il faisait de bon, malgré ses efforts de plaire à Dieu puis d'être libéré de ses péchés, jusqu'au moment où l'Écriture, la vérité de Dieu l'a frappé et il a compris, le juste vivra par la foi ou de sa foi. Et là, ça l'a enflammé son cœur, il était libéré. Enfant de Dieu, la parole de Dieu nous libère encore. Cette parole de Dieu pénètre en nous et change nos idées et nous donne le pouvoir de vivre pour le Seigneur. La parole de Dieu est vivante, elle est coupant comme une épée à deux tranchants. Ça pénètre dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, ça fait la job, toujours. La parole de Dieu, c'est ça qui nous change. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Mais lui, après avoir travaillé pendant, avec tous ses efforts, il était épuisé, fatigué. Et là, des fois, quand on est épuisé, fatigué, on va regarder le Saint-Bé, Seigneur, peux-tu faire quelque chose? Et Seigneur, ben, j'attends juste ça. Après qu'on ait défaite, nous autres, on fait confiance et le Seigneur fait son travail. Fait que les flammes de la réformation, c'était comme un feu sauvage à travers dans beaucoup de pays d'Europe. Et les gens qui étaient liés par une religion et toutes sortes de choses qui étaient pesantes, Martin Luther, il avait un problème avec l'Église qui vendait les indulgences. N'est-ce pas? C'est, vous allez passer moins de temps au purgatoire, plus que tu payes. Hein? Wow! Il y avait des troubles avec ça. C'était une des choses sur les thèses. Hein? Mais une fois qu'ils sont venus à la parole de Dieu, c'était un feu. J'aimerais que ça soit encore comme cela. Dans notre pays. N'est-ce pas? Et eux, les réformateurs, parce qu'il y en avait d'autres. Vous savez, Martin Luther était là. Mais savez-vous que Dieu en faisait d'autres, préparait d'autres aussi? Et aussitôt qu'il y a une étincelle, waouh, ça a pris. Et les autres étaient déjà prêts. Les autres étaient déjà troublés. Les autres étaient déjà une confiance en Dieu. Et là, ils ont fait comme une espèce de décret, une espèce de doctrine. Et je vais simplement vous dire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit là, on se tient sur cela. Et c'est en latin, excuse mon latin, c'est facile, vous allez voir, c'est sola, solo. Ça veut dire « seul » ou « à part », juste cela. Il dit, eux autres, leur foi, « sola scriptura ». C'est quoi? Juste l'Écriture. Si la religion avait juste pris l'Écriture, ça serait suffisant en masse. Mais les traditions des hommes, c'est un tel et tel, un théologien, ce qu'il pense. Wow! Ça nous a déviés. Et Paul, avec la circoncision, les Juifs ont, je reviens à ça un peu, les Juifs ont pris cela, c'était un signe visible, physique, qui disait qu'Abraham avait reçu la justice de Dieu par la foi, et le signe de l'extérieur témoignait de cela. C'était une alliance faite. Mais les Juifs ont pris la circoncision, et c'était comme, si tu as cela, c'est suffisant. Et vous savez, la religion, là, c'est toujours les choses de l'extérieur, que ce soit les sacrements, que ce soit les ordonnances, que ce soit le baptême, que ce soit les choses qu'on fait. On fait ça, et puis ils mettent leur foi là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est ce que ça indique, la réalité de cela. Et maintenant, nous, dans la Nouvelle Alliance, la réalité est en Jésus-Christ. Aussi simple que cela. Pas les choses que dit j'ai été baptisé. Non, je suis baptisé en Jésus-Christ. L'Esprit Saint est en moi. Jésus, là, j'ai un bon plaisir de. Jésus est suffisant. C'est pas Jésus et, c'est Jésus point. Alléluia. Alors, je m'excite un petit peu. Il va falloir que je me calme. Parce qu'on peut faire sauter un gasket de tête. Et j'ai besoin de toutes les gasquettes possibles. Enfin, peut-être vous aussi, enfin, je sais. Fait que solo écriture, solo fide. Voilà ce qu'ils ont dit. Non, non, nous autres, c'est la foi. Seulement la foi. La foi. C'est la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et il ne dit pas « et ». Il ne dit pas « et les œuvres ». Il ne dit surtout pas les œuvres. Fait qu'une fois qu'on a pigé, une fois qu'on a compris cela, on est à l'aise. Ce n'est pas les œuvres. Mais combien de gens pensent, oui, mais, et puis même ils comprennent, gratuit, donné, oui, mais, fallait que je donne, fallait que je fasse quelque chose. Non, ça c'est la religion. Une fois que la lumière vient, l'Esprit Saint nous montre, c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Amen. Après ça, sola gratia, c'est la grâce seule. Solus Christus, Christ seul, seulement Christ. Sole Deo, gloire à Dieu seul. Et là, ils ont fait cela. Il dit, non, on ne bouge pas de cela. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous sommes. Et que nous soyons, nous, les enfants de Dieu, les enfants des réformateurs. Qu'on soit bâtis sur la parole de Dieu, de plus en plus. Oui, oh, je connais ça. Oh, je connais la Bible. Non, non, on ne connaît jamais assez la Bible. Sonde les Écritures nous sondent. Nous voient les déficiences, nous voit les choses, nous guide dans la vérité. Et la Bible dit que si tu connais la vérité va vous affranchir. Alléluia! On vient à la vérité. Seigneur, me voici, tu es la vérité. Seigneur, il y a ceci en moi. Seigneur, il y a ceci qui est croche. Seigneur, j'ai une attitude qui est là. Seigneur, j'ai dit des choses à des chrétiens. Seigneur, je pense certaines choses. Je viens à toi. Et quand on vient à lui, il nous lave. Le sang nous a lavé, le sang nous lave. L'Esprit Saint nous purifie. Cette parole est agissante dans notre vie. Je sais que vous le croyez, mais il faut s'exhorter les uns les autres et de rester dans la liberté que Christ a acquise pour nous. On est libérés et on bénit le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour ces gens-là qui ont devant la persécution, devant le ridicule, devant l'Église forte, politique, ils sont restés debout, même il y en a qui sont morts. Ils ont dit non, on se tient pour le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ces gens encore, en vous. Le Seigneur veut qu'on se tienne debout pour le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour eux. Je ne les connais pas personnellement, mais je bénis le Seigneur pour eux. Ils ont pris... Et je bénis aussi le Seigneur pour les gens dans ma vie, ceux dans mon église de village, ceux que j'ai vus qu'il y avait, personne n'est parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais j'ai vu les personnes qui aimaient le Seigneur, leur vie a été transformée, changée, il y en a qui m'ont encouragé, et je bénis le Seigneur pour eux. Et il y a même des personnes que présentement, des fois, quand je pense à eux, je remercie le Seigneur. Ils sont avec lui, avec le Seigneur maintenant. Mais je dis, Seigneur, merci pour cette personne-là. Et je me demande, est-ce que les gens vont vous faire la même chose? Je ne dis pas ça pour condamner ou vous donner des sentiments de tristesse, mais je veux que notre vie compte. On a tous une influence et on est un témoin de Jésus-Christ. Mais il me semble que ça serait une vie réussite, non pas avec une dizaine d'automobiles, enfin, c'est des maisons. C'est pas ça, c'est des bénédictions si c'est donné par le Seigneur. Mais d'arriver à la fin de la vie et puis quelqu'un dit, ben écoute, il m'a aidé. Et pour moi, c'est un chrétien. C'est, ça, c'est normal. Et je prie, je souhaite que vous soyez comme ces personnes-là. Amen. Je veux juste... quand est-ce que l'Église se termine ici? Est-ce que c'est 11h30 normalement? À peu près, oui, 11h30. On va viser cela. C'est une promesse de pasteur, ça. Ça vaut que ça vaut. On verra. Je vais essayer de respecter, parce que des fois, hein, on a... Oui, c'est ça. On a long à dire, mais le temps nous manque des fois. C'est pour ça que je reviendrai une autre fois. Amen. C'est une invitation déguisée, quoi. Voilà. Fait que, voilà, j'ai lu un article en préparant ce message. C'est par un nommé Tim Brown. Et j'ai dit, wow, ça va vraiment avec ce qui est dans le cœur du message dans Galates. Et je ne connais pas l'auteur aucunement, mais je sais qu'il écrit bien, c'est vraiment dans la pensée de Dieu. Et lui, il commençait en disant, attendez un instant. Ça, c'est, comme je dis tout le temps, ça, c'est mon introduction. Ah, j'ai chaud, là. Ouf. OK. Tim Brown a dit ceci concernant un stronghold. Tu sais, on dit des forteresses. Seigneur, enlève des forteresses. Mais un stronghold, et il a expliqué, puis moi, j'ai trouvé ça comique, mais profond en même temps. Il dit un stronghold ou une forteresse, c'est n'importe quoi qui a un stronghold on you. Simple, hein, mais pas plus compliqué que ça. Quelque chose qui vous tient, qui vous lie en quelque sorte. Et on sait que la Bible dit que le Seigneur, il va enlever toute pensée, toute spéculation, toute imagination là, qui ne se soumet pas à la pensée de Christ. Hein. Voilà le Seigneur s'y fait. Et il dit aussi, puis dans ce passage, il dit un peu de levain, on ne l'a pas lu, mais c'est dans Galates 5, un peu de levain fait lever la pâte, toute la pâte. Fait que c'est une image du péché. Il dit, voilà comment le péché marche. On se tient dans la liberté, mais il dit, voilà comment le péché commence à s'infiltrer, si vous voulez. Il dit, voilà, il y a un processus de 5 étapes. En premier, le péché est commis. On parle des chrétiens ici, là. Ou n'importe qui. Après ça, là, on le couvre. On le cache. Troisièmement, on va tolérer cela. On va vivre avec. Après ça, on va se justifier le péché. En cinquième lieu, on va normaliser le péché. Et il dit que quand on fait cela, tout cela, ça agit comme un acide et ça mange à travers jusqu'à votre caractère, qui vous êtes. Et tout est affecté. Le péché est ce levain. Oh non, ben c'est pas grave, non, non. Et puis on se justifie, puis ben je connais d'autres chrétiens qui font pire que moi, et puis on se justifie. Arrêtez, faites pas cela. Si tu vois quelque chose, si l'Esprit-Saint te montre quelque chose, va devant le Seigneur, dis Seigneur, je me repens. Seigneur, ce n'est pas selon ton caractère, ce n'est pas selon ton cœur. Veux-tu m'en délivrer dans le nom de Jésus-Christ? Saisis-le! Et le Seigneur nous purifiera si on confesse notre péché. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier si c'est fait du cœur. Voilà la solution. Donc, il dit, après que tout est affecté, il dit, tout éventuellement va s'effondrer, va tomber. Le péché, on ne joue pas avec ça. Le péché connu, et puis on tombe. Tous, on s'égare, mais on revient. L'Esprit-Saint nous touche, nous donne une tristesse et on s'éloigne, on court vers le Seigneur et le Seigneur nous pardonne. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un ce matin, mais écoute, c'est pour chacun de nous, mais peut-être ce matin tu vis quelque chose dans le nom de Jésus-Christ. Règle cela. Pas par toi-même, mais toi, règle cela avec le Seigneur. Il dit, pour ne pas, quand on n'obéit pas et on ne se repentit pas, et si on n'amène pas les choses à la lumière, nous sommes en train de d'étrangler notre âme. Et c'est comme si tu avais une grenade à main en vous, et que vous avez tiré le pin ou le goupil, vous l'avez ôté, et que ça fait quoi? Ça fait évidemment une explosion. Donc j'ai trouvé ça, c'est quand même une parole pour nous, et nous voulons laisser le Seigneur agir, évidemment, dans notre cœur. Dans le verset 13, il y avait un autre, l'autre ennemi. L'autre ennemi était ceci, c'était la fausse grâce ou la fausse liberté. Regardez le verset 13, il dit, « Frère, vous avez appelé à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Il y a une gang de chrétiens qui disent, « Ah, oh, c'est la grâce, je suis libéré, je peux faire n'importe quoi. » Non, you can't. Il y a des limites. Il y a, oui, la grâce de Dieu. S'il y a quelqu'un qui aime la grâce de Dieu, écoute, c'est moi, je bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu, ça couvre tout. La grâce est plus forte que le péché. Mais Paul dit, ne fais pas cela, que votre liberté, que ça soit un prétexte de vivre selon la chair. Il y en a qui le font. Pas vous, évidemment, mais il y en a. Et nous ne voulons pas faire ça. Ça, c'est le disgrace. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre sobrement, de vivre pieusement, en attendant le retour de Jésus-Christ. On dit au Québec, on niaise pas. On est correct avec le Seigneur. Et on est franc. Le Seigneur est franc avec nous. Mais rendez-vous par l'amour, serviteur les uns les autres. Verset 16 dit ceci, « Je dis donc, regardez combien c'est clair et simple, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a quelque chose là-dedans que vous ne comprenez pas, qu'on comprend. C'est tellement clair. Marchez selon l'esprit. L'Esprit Saint nous est donné. Il est là constamment. Et si on marche selon l'Esprit, on n'accomplirait pas. Quelle belle promesse! Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, regardez verset 7, peut-être vous êtes d'accord avec ça, peut-être vous avez déjà appris ça. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Mais hein, c'est ça, hein? Il y a un conflit. On voit dans Romains 7, Paul dit, « J'ai le désir de faire le bien et je ne le fais pas. » Et puis, on voit, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera? » Et dans le chapitre 8, il dit, « Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce qu'il dit, « Maintenant, il y a une nouvelle loi de vie, d'esprit de vie en Jésus-Christ. » Il y a une nouvelle loi maintenant. Ce n'est pas la loi qui nous condamne. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il souffle sur nous. Il nous donne le pouvoir. Il brise le pouvoir du péché dans notre vie. Il pardonne nos péchés, mais il donne le pouvoir de vivre au-dessus de cela. Paul dit à notre place, nous ne sommes pas redevables de vivre selon la chair. Il y a une puissance maintenant. Il y a un esprit de vie en Jésus-Christ. C'est avec sa force que nous pouvons vivre une vie victorieuse. Dites-vous amen. Quelle promesse! Le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur est là pour nous aider, évidemment. Donc, cette vie que le Seigneur nous donne, versets 16 et 19, je pense que, je ne lis pas, mais dans le verset 19, vous avez les œuvres de la chair. On va les lire vite, là. Au cas où que vous ne connaissez pas les œuvres de la chair. Je pense que des fois, on peut en ajouter. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais il dit, la chair, c'est quoi? Et c'est les œuvres de la chair. Il dit, elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut souligner une chose que dans une autre version, beaucoup de versions disent, ceux qui pratiquent ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien qui tombe, qui fait cela, qui est fini, ce n'est pas cela. C'est ceux qui pratiquent et ne reviennent pas à la repentance et ils restent là-dedans, ils ne veulent rien savoir. Bien, il dit, ceux-là ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. N'est-ce pas merveilleux? Ce que le Seigneur est prêt à nous donner, ce qu'il nous donne. Vous dites ces trois choses, toutes ces choses-là, toutes ces qualités poussent en nous en même temps. Et ça pousse, c'est un fruit. Les autres, c'est des actes. Mais en cherchant le Seigneur, en vivant pour le Seigneur fait... Peut-être tu dis, ben, peut-être moi je peux juste faire avec un. Il y en a neuf ici, là. Non, non, les neuf, ça grandit en même temps. Le Seigneur vous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et j'essaie de terminer, je vais terminer tranquillement, doucement. Le verset 24 et 25, il dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Paul dit, je crucifie ma chair chaque jour. Paul, toi? Chaque jour. Et on a la tendance, si vous êtes comme moi, la tendance, c'est qu'on va dorloter notre chair. On va aller doucement avec notre chair. Non, Paul dit, on crucifie. Qui crucifie? Le Seigneur ou moi? Il dit, vous. Vous. Oh, ben, je vais attendre le Seigneur jusqu'à ce qu'il me parle fort. Peut-être un jour, il m'a fait connaître. Mais le Seigneur en premier. Cherchez le Seigneur et sa justice. Romains 12. Je vous exhorte d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et vous allez pouvoir, ne soyez pas conformés au monde, afin que vous puissiez connaître, savoir ce que c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à Dieu. Savez-vous pourquoi on est souvent, des chrétiens, on est dans la confusion? Parce qu'on ne se donne pas. C'est parce qu'on reste là, notre volonté, ce qu'on veut. Mais quand on vient et on s'offre, on se donne à Jésus-Christ la lumière. La présence de Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, va nous montrer et on va être convaincu, Seigneur, c'est ta volonté. Moi, je veux la volonté de Dieu. Moi, je veux la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas marcher à l'aveuglette. Je ne veux pas deviner. Je ne veux pas, je me demande. Non, je veux que le Seigneur me guide et il me guide. Il vous guide parce que, Seigneur, voici ma vie. Et le Seigneur prend plaisir. Mais il faut se donner. Il faut que je me prenne en main. Des fois, il faut que je me prenne comme ça. Excuse, mais on est trop mou, on est trop doux avec nous autres. Le Seigneur nous aime, le Seigneur, il nous embrasse, il est là. Mais il faut que moi, en tant qu'homme de Dieu, je décide, je suis le Seigneur. Et les choses dans ma vie, il faut que je les place. On a tous des choses dans notre vie. Mais il faut que je sois honnête et que je les mets carrément devant le Seigneur. Seigneur, veux-tu en faire quelque chose? Je sais que ça ne te glorifie pas. Et Seigneur, tu vas m'aider et il va nous aider. Enfant de Dieu, il nous suit. Pas avec un bâton. Il nous suit avec ses mains cicatrisées pour nous, ses mains blessées pour nous. Et il nous aime et il nous prend en main. OK. l'avion arrive. Là. OK, je ne sais pas si on avait lu tout ça. Bon, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, car en nous portant envie les uns aux autres. Je termine avec, quatrième fois que je termine, là, mais c'est vraiment, le psaume 32 et 8. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, « Je vais t'instruire dans la voie où tu dois aller. Je vais te guider avec mon œil ou mes yeux. » Le Seigneur va nous guider avec son œil ou ses yeux. Est-ce que vous avez jamais vu une maman, mon papa, mais une maman regarder son enfant, l'enfant fait un mauvais coup, et la maman regarde et en dit long juste avec un regard. L'enfant capte. Hein? Mais regardez la sensibilité ici. C'est qu'en regardant pleinement dans la face de Jésus-Christ, en voulant le connaître, en voulant lui plaire, en voulant l'aimer davantage, le glorifier, on capte, on ressent dans notre cœur, « Seigneur, voilà ce que tu veux. » Et on décide pour cela. Amen. Je vous invite de vous lever, s'il vous plaît. Hallelujah.